Salut les gars, et bienvenue dans Radio Dixie. Salut Baptiste,
salut,
toujours pas en prison ?
Non, écoute, globalement, non. Étonnamment, non. Bon, j'ai encore eu le droit à une... Il y a une grosse vache de street press qui s'appelle Pauline Ferrari, je crois, qui a encore dit que j'avais fait partie d'un groupe néo-nazi. Elle y va pas par quatre chemins. Ancien membre d'un groupe néo-nazi, ouais, au moins c'est clair.
Simplement.
Le mensonge est assumé. Bon, après, quand tu vas voir ton profil, t'as compris. Hein. En surpoids, féministe, bref, travaille chez Street Press, etc. En tout cas, sur Instagram, est facilement trouvable. Si vous voulez lui demander des explications, voilà, à cette grosse feignasse mythomane. Mais bon, bah, c'est les mythomanes de chez Street Press, on a l'habitude. Voilà.
En parlant de grosses vaches, mec, on va parler d'un sujet un peu moins joyeux. C'est l'abattage par l'État de troupeaux entiers de vaches au nom de la lutte contre la dermatose. Il y a des images qui sont assez impressionnantes. On va aussi parler du passé trouble d'Ursula von der Leyen, de la surfacturation des fournitures pour les administrations publiques, des gros problèmes de pédophilie en France, encore une fois, notamment dans les écoles qui embauchent n'importe qui. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais avant de commencer...
La France n'est pas n'importe laquelle, celle d'Emmanuel Macron et de Ursula von der Leyen.
Avant de commencer, moi je voulais vous féliciter car vous êtes déjà plus d'une vingtaine à venir faire vos cartes de résident au Paraguay, que ce soit pour s'expatrier comme plan B ou pour la résidence fiscale en tant que digital nomade. Des familles, des couples et des célibataires ont déjà franchi le pas, donc si toi aussi tu es intéressé par obtenir la résidence dans ce paradis fiscal catholique sécuritaire et à faible coût, rendez-vous sur leguise.com, puis tu pourras m'écrire à contact@leguise.com si tu as des questions. Tous les liens sont en description. Il y a aussi plein de nouveaux contenus sur patreon.com/leguise. Et le merch, les casquettes, les t-shirts sont toujours disponibles sur leguise.com. Mais je vous laisserai aller regarder tout ça par vous-même pour ne pas m'éterniser. Car je voulais aussi te demander ce qu'il y a de nouveau de ton côté, Baptiste.
Eh bien, pour Noël, Texas Jerky organise un jeu concours. J'en ai marre de voir des mecs se gaver de barres chocolatées de merde. Non, mais ça fait plusieurs fois que je vois ça. Des mecs de chez nous et tout. Hein. Ah, il y a un petit creux, ça mange des bonbons, ça mange des merdes. Arrêtez, laissez ça à votre meuf. Mangez des trucs qui votre corps. Non, mais sérieusement, arrêtez de manger des saloperies de meufs et de gamins de 12 ans. Là. Enfin, c'est pas possible. Et même les barres protéinées, c'est des merdes bourrées de sucre. Ça fait vous monter vos oestrogènes en hausse. Mangez, voilà, de la testo brute. 99% de viande, donc déjà voilà, c'est de la viande tout simplement, de la viande déshydratée, il n'y a rien, et en plus il n'y a pas de merde, pas de conservateur, je rappelle, pas d'ajout, pas de colorant, pas de produit, aucun produit artificiel, c'est 100% naturel, c'est fait en France, c'est des vaches françaises, c'est pas des vaches merdiques du Mercosur, donc allez-y, jetez-vous dessus, et en plus on fait gagner un énorme brasero plancha pour Noël. Donc tu sais, c'est une grosse fosse, tu sais, à feu là, où tu peux faire un gros brasero. Et tout autour, en fait, tu as une plaque de cuisson, une plancha. Donc l'hiver, bah, tu sais, tu peux te mettre auprès du feu, t'es bien, tu fumes ton cigare, t'es tranquille. Et l'été, tu te fais des énormes entrecôtes dessus et tout, c'est stylé. Parce qu'en plus, c'est en 360, ça, donc tu peux avoir du monde et tout. Alors, donc le tirage au sort est le 25 décembre. Et pour chaque paquet acheté, c'est une participation. Donc faites-le plein. Et surtout, ce que je disais, c'est que là, pour Noël, profitez-en pour 10 balles. Vous achetez un paquet, vous le mettez en cadeau supplémentaire sous le sapin. Hein, n'importe votre père, votre frère, tu vois, une tante un peu masculine, peu importe. Tu vois. Tu fous ça sous le sapin pour 10 balles, ça fait un petit cadeau supplémentaire. Ça fait participer la personne au jeu concours. Et voilà quoi. Mais franchement, arrêtez de vous gaver de merde. Voilà. Stop. Arrêtez d'être faible. Arrêtez de manger des trucs faibles. On est ce qu'on mange. Donc soyez du jerky, tout simplement.
Un petit complément de cadeau pour votre cousin qui est un peu bicurieux. Peut-être
exactement,
que ça le remettra
en branche. Non, mais pour de vrai. En plus, non, mais c'est vraiment, je le dis, mais putain. Ça se conserve super bien, c'est complètement déshydraté, vous laissez ça partout, dans la bagnole, au bureau, dans le tracteur, n'importe où, peu importe votre boulot, dans l'atelier, enfin voilà, ça se mange tout seul, il n'y a pas besoin d'en manger des énormes quantités, il y a plus de 50% de protéines dans le bœuf, et on est à 52 grammes de protéines là sur ce paquet, et on est à plus de 60% de protéines sur le porc, donc vous n'avez même pas besoin d'en manger des paquets entiers, hein. Un quart de paquet à chaque fois, vous avez votre dose de protéines, c'est équivalent, en gros là, vous avez les mêmes protes que dans 250 grammes de steak haché, mais pour 10 balles. Donc, les gars, tout est fait. Hein, tout, fin, le calcul est vite fait. Et comme j'ai dit, ça se mange facilement n'importe où. Donc, arrêtez avec vos mars, arrêtez avec vos barres protéinées, les cacahuètes, j'en sais rien, les tranches de saucisson. Mangez, ça, voilà. Là, ça,
En fait, je vois aucune raison de ne pas en manger.
Je vois aucune raison. Et tu sais, on parlait de Street Press, parce qu'il y a aussi le fait que ça nous soutient. Ça me soutient moi, mais ça soutient aussi un artisan français, tu vois, qui bosse dur. Ça soutient un éleveur, etc. On parlait de Street Press. Tu sais combien ils ont de donateurs mensuels? Street Press, c'est en libre accès sur leur site. Hein. Ils ont 7000 donateurs mensuels. Eh oui. C'est 4 fois plus que mon Patreon. Je sais pas toi combien t'as de mecs, mais voilà. Hein. Donc après, ouais, c'est toujours pas facile hein, de parler des gauchistes. Ah, mais les gauchistes, machin et tout. Ouais, mais enfin, les gauchistes, on attend. Et puis, c'est pas comme si Street Press, c'était la seule merde de gauche qui existe. Hein. Ouais. Il y en a un paquet. Hein. Ils soutiennent Street Press, mais les mecs soutiennent d'autres trucs. Ils soutiennent, tu vois. Donc bref.
Ouais. Ils se mobilisent, mais sur tous les gens qui les soutiennent, quel pourcentage gagne de l'argent public, touche des aides sociales, touche des subventions.
Je suis d'accord. C'est nous qui les soutenons, tu vois.
De vrai,
c'est
malgré nous. Nous
indirectement. Mais justement, d'autant plus, tu vois. Autant plus, c'est intéressant de nous, tu vois. De se mobiliser. En fait, c'est pour dire, voilà. Profitez-en là pour Noël, il y a un vrai cadeau à gagner, donc allez-y. Le tirage au sort le 25.
La guerre médiatique, la guerre culturelle de gauche, elle est largement favorisée par l'État, donc on a d'autant plus besoin de vous. Moi, vous êtes à peu près 1000 sur mon Patreon, donc 7 fois plus pour Street Press, impressionnant. Mais est-ce que tu veux te lancer dans le premier sujet, mec?
Si je dis non, il faut qu'on.
Non, si tu veux. Alors, il y a deux options. Soit tu as autre chose à rajouter, soit on arrête l'émission.
Non, bah oui, du coup. Ouais, je suis chaud.
Non, tu avais peut-être autre chose à rajouter, excuse-moi.
Non, j'ai rien à rajouter. Tout va bien.
Nickel. Mais écoute, le premier sujet, il est assez révoltant, car il s'agit de l'abattage par l'État de
très entiers
de vaches au nom de la lutte contre la dermatose. Je vous propose de regarder ce petit extrait.
Équipés de boucliers et de bombes lacrymogènes, des dizaines de gendarmes tentent d'investir cette ferme du Doubs. Face à eux, plusieurs centaines d'agriculteurs et de voisins venus empêcher l'abattage d'un troupeau.
Mais qu'est-ce que vous protégez, quoi ?
Rapidement, le face-à-face s'envenime. Les manifestants sont dispersés, tenus à distance par les 175 gendarmes mobilisés. Des forces de l'ordre qui parviennent à entrer dans l'étable sous le regard désabusé de la propriétaire.
On est traité pire que des terroristes, juste parce qu'en fait on veut défendre nos vaches.
Ce matin, ces manifestants étaient rassemblés en soutien à cet élevage bovin où un cas de dermatose nodulaire a été détecté. Les 82 vaches, pourtant vaccinées contre la maladie, doivent être abattues.
Voilà, ils ont l'air malades. C'est le travail d'une vie, en fait. Là, c'est le travail de mon mari. C'est la vie de mon mari, en fait, et de mes 4 enfants qu'on est en train de foutre en l'air. Je ne peux pas rester sans rien faire.
À leur arrivée, les services vétérinaires sont accueillis par des jets de bouse de vache. Insuffisants pour empêcher l'euthanasie des bêtes. Une mesure radicale pour lutter contre la dermatose nodulaire. Une maladie bovine très contagieuse qui ne cesse de gagner du terrain en France. Pour la préfecture, l'abattage de ce troupeau était inévitable.
Là, on a un animal qui, 36 jours après le vaccin, a développé les symptômes de la maladie. Et il n'y a aucun doute sur ce point, il est bien porteur de la maladie.
Depuis le début de l'épidémie en juin, plus de 2700 animaux ont été euthanasiés. Pour chaque bête perdue, les agriculteurs sont indemnisés et les revenus manquants compensés par l'État.
Donc ça, c'était la semaine dernière. Hein. C'était pour vous resituer. Ça, c'est la semaine dernière. Alors j'imagine, je sais pas, là, il y a encore des droits de tard, peut-être qu'ils vont défendre les forces de l'ordre encore. C'est ça, ils obligatoire de défoncer les paysans, de les gazer. Non mais c'est important de montrer. Hein. C'est important de montrer pour tous les gens qui pensent que les forces de l'ordre sont de notre côté et que c'est des pauvres mecs qui sont, tu sais, qui ont des ordres, etc., qui n'ont pas le choix. Non. Quand vous acceptez de faire ça, vous êtes un fils de pute, c'est tout. Là, tous les gendarmes mobiles qui sont là sont des sous-merdes. D'accord, c'est pas la peine de nous faire la leçon pour parler des Arabes, etc., des racailles. Ce sont des racailles, ils ne valent pas mieux. Ils ne valent pas mieux que les petits dealers en bas, ils ne valent pas mieux que les mecs qui arrachent les sacs des grands-mères. Ce sont les mêmes sous-merdes, les mêmes traîtres. Vraiment, qu'ils aillent brûler en enfer parce que c'est vraiment des sous-merdes. Et ce sont nos ennemis. Ces gens sont nos ennemis. Ces gendarmes-là sont nos ennemis. Arrêtez de croire que les forces de l'ordre sont de notre côté. Il y a des policiers qui font bien leur travail, il y a des gendarmes qui font bien leur travail, et même eux, ces gens-là, ces policiers, ces gens-là, moi j'en ai tout le temps en client, d'accord ? Ils vous le disent, ils détestent ces mecs-là, ils détestent. Tu peux te mettre en arrêt maladie, tu as plein de choses, tu peux aller, il y a énormément de moyens, et même en tant que compagnie, ils pourraient juste refuser d'y aller, d'accord ? À l'époque de Crépol, quand les mecs ont été dans la cité à Crépol, d'accord, ils ont demandé à un commissariat d'aller les arrêter. Ils ont tous refusé, et du coup, ils ont demandé à une autre compagnie de CRS d'y aller. Donc, tout ça, c'est possible. Donc, ceux qui acceptent, ces gens-là que vous voyez dans la vidéo, ce sont nos ennemis, au même titre que LFI, au même titre que Macron, au même titre que la racaille, ce sont nos ennemis. Aucune pitié pour ces mecs, il faut arrêter de les soutenir. C'est insupportable de voir la droite en permanence licher les bottes des forces de l'ordre alors que ces gens sont en face de nous, en face. Mais vous voyez ce qu'ils font là ? Comment tu peux accepter de gazer des paysans directement comme ça, à un mètre de portance, des pauvres mecs qui sont en train de se battre pour leur vie ? Il faut être une salope. Il faut être une salope de collabo, c'est tout. Ces gens sont des salopes de collaborateurs. Point. Arrêtez, je ne veux plus jamais entendre personne les défendre. Et les commentaires du style « Oh non, mais ils ont des ordres, ils ont des familles à nourrir. » Mais les mecs en face, ils n'ont pas des familles à nourrir, donc on peut tout faire. Donc si demain, il faut tabasser des gosses à coups de matraque, ils ont des familles à nourrir. Quand il faut foutre des juifs dans des trains pour les envoyer dans les camps, ils ont des familles à nourrir. Donc on peut vraiment tout. Si un jour, c'est l'islam au pouvoir et qu'il faut que les meufs soient voilées, ils tabasseront des meufs dans la rue parce qu'elles ne seront pas voilées, ils ont des familles à nourrir. Non.
Oui. De toute façon, mec, ce qui est légal n'est pas forcément moral. Et celui qui donne l'ordre, il est responsable, mais celui qui l'applique, il est tout aussi responsable.
Bien sûr. Donc c'est insupportable. Donc ces gens sont nos ennemis. Je ne dis pas la police en général, je ne dis pas la gendarmerie en général, je dis bien ces gens, ceux qui acceptent d'être les chiens de garde, d'accord, les salopes de Macron, ceux-là sont nos ennemis. Quant aux agriculteurs, il faut absolument les défendre. En ce moment, ils sont en Ariège. La commune, elle s'appelle... Bordes-sur-Arize. Les Bordes-sur-Arize, en ce moment, ils sont en train, du coup, parce que là, vous les avez vus, ils se sont fait déborder. En ce moment même, ils sont au moment où on est en live, donc quand vous verrez la rediff, ce sera sûrement passé. Ils sont en Ariège, les Bordes-sur-Arize. Il y a plus de 700 agriculteurs qui sont là-bas en train de défendre. Et cette fois-ci, j'espère qu'ils ne vont pas laisser passer les CRS, parce que justement, cette fois-ci, ils se sont fait déborder, il faut être plus nombreux. Si vous n'êtes pas agriculteur, mais peu importe, et que vous voulez, allez les rejoindre. Allez voir, vous avez la coordination rurale, vous avez la ferme des cochons laineux, vous avez plusieurs Instagram qui relaient les infos, vous pouvez aller les suivre et essayer d'aller les rejoindre et mobilisez-vous si vous pouvez y aller, allez-y. Là pour le coup, je suis toujours celui à dire les manifestations, tout ça, ça sert à rien. Là, il y a des vraies actions à mener. Là, il y a des vraies actions à mener. Il ne faut pas se laisser faire. Et attention, il ne faut surtout pas reculer. Il ne faut pas reculer. Là, c'est le moment de faire un vrai coup de force pour une fois qu'il y en a un. Pour une fois qu'il y a des gens qui se mobilisent et qui sont prêts à se mobiliser physiquement, il faut faire un vrai coup de force. Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout, peu importe ce qu'il faut faire. S'il faut sortir les 12, il faut sortir les 12. Là, il faut surtout rien laisser passer. Rien. C'est trop facile. Ils ne pourront pas, d'accord ? Ils ne vont pas tirer sur... Ils ne vont pas abattre 200 paysans, d'accord ? Donc à un moment, il faut faire plier l'État. Il faut montrer parce que tout l'enjeu est là, en vérité. Parce qu'on peut se dire, mais en fait, quel intérêt ? Alors, il y a plein de théories. Il y a des gens qui vont dire ils vont faire abattre les vaches parce que c'est pour l'accord du Mercosur, etc. Mais c'est surtout parce que c'est très important pour l'État de toujours pouvoir prendre le dessus sur la population. C'est très important, d'accord ? C'est très important de montrer que peu importe les décisions, aussi stupides soient-elles, nous n'avons aucun moyen de les bloquer. Et donc là, c'est le moment de faire un précédent et de pouvoir les bloquer et de les obliger à discuter. De les obliger, il faut les obliger à revoir leur politique. Ce qui se passe, c'est que cette maladie, elle n'est pas transmissible à l'homme. D'accord ? Il faut bien comprendre. Vous pouvez manger la viande d'une vache contaminée, ça ne change rien. D'accord ? Ensuite, il y a un vaccin. Donc, il y a des vaches qui tombent malades parce qu'en fait, elles ont eu le vaccin tard, etc. Elles étaient peut-être déjà porteuses. Peu importe. Il y a une autre chose aussi. C'est que il y a
une maladie, 90%. Un petit détail, c'est une maladie strictement bovine qui ne peut pas être transmise à d'autres animaux.
Non, et il y a 90% de vaches qui survivent aussi.
Oui.
Donc ça n'a aucun sens parce que les histoires de les agriculteurs sont dédommagés, etc. Alors déjà merci, donc c'est nous qui payons, donc on abat des milliers et des milliers de vaches sans raison et ensuite il faut bien sûr que le contribuable rembourse, mais c'est surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des éleveurs qui mettent des vies entières, voire des générations et des générations à faire une génétique Quand on vous élevez des animaux, la sélection génétique est extrêmement importante. Ça met du temps d'avoir des vaches qui sont là, qui sont des reproductrices. Ça met du temps. Il faut aller chercher des taureaux ailleurs, etc., pour mélanger le sang, tout ça. C'est très important. Parce que toutes ces vaches-là, dans un élevage, pour ceux qui ne connaissent pas, elles ne sont pas tous destinées à l'abattoir. Hein, d'accord ? Ce sont les taurillons qui vont à l'abattoir. Ce sont les veaux, etc., les jeunes vaches, d'accord ? Mais les reproductrices, là, elles ne vont pas à l'abattoir. Elles sont là pour reproduire, d'accord ? Les taureaux reproducteurs, c'est pareil, eux, ils ne vont pas à l'abattoir. Hein. Ils sont là pour reproduire. Donc ça, c'est des sélections génétiques qui prennent des générations et des générations, parfois, qu'on va foutre en l'air. On vous dit, oh, mais on file l'argent, vous en rachetez. Mais ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose.
Donc c'est ce qu'on appelle la création d'un troupeau.
Mais bien sûr, c'est des techniques pastorales qui sont très complexes. Il ne faut absolument pas laisser passer. Donc je vous le redis, si vous entendez, là en ce moment ils sont en Ariège, allez-y, peu importe où ils seront après, allez-y, il faut les soutenir, allez soutenir la ferme des cochons, les Neuillys, ils font un super travail pour
Pierre-Guillaume
fait un super travail pour donner les infos, etc., pour communiquer sur le sujet. Donc, allez le suivre. Vraiment, vous aurez toutes les infos, bien plus que ce qu'on vous donne maintenant, et vous les aurez en temps réel. Si vous êtes possible, allez-y. Si vous pouvez vous déplacer, vraiment, allez les aider. Le plus on sera, et le plus surtout, il y aura de mecs solides sur place qui ne reculeront pas, plus ce sera important, vraiment. C'est facile à dire maintenant que je vis loin, mais je vous assure que là, c'est quelque chose où je serai allé, où je me serai déplacé. Il y a très peu de choses où je pense que c'est intéressant ou que ça peut avoir une portée. Cette fois-ci, c'est la vérité. Donc vraiment, c'est très important.
Ouais, parfait. Et juste par rapport à tes chiffres, c'est encore pire. Tu as légèrement inversé une donnée. En fait, c'est 1 à 5% des bêtes qui en meurent et 90% des bêtes qui sont complètement soignées.
Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit il y a plus de 90% des bêtes qui survivent.
Qui survivent, ouais. Mais au-delà de ça, c'est pas juste qu'elles survivent, c'est carrément qu'elles ont plus le virus, elles sont complètement soignées.
Ah oui,
elles survivent pas à moitié. Hein.
Il y en a 5%
qui meurent. Ouais. Et tu sais que tout ça, c'est une réglementation européenne, hein, qui est réappliquée dans la loi française.
Encore une fois, ça en vient en plein dans les discussions sur le Mercosur, etc. On va encore influencer le marché au maximum. On surréglemente des agriculteurs, on leur rabat leurs troupeaux, etc. Pendant ce temps-là, on va accepter des marchés pour que les Allemands puissent vendre des voitures. En gros, on va favoriser un autre marché. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est encore du trifouillage du marché. On est en train d'enculer le marché. Mais c'est de la concurrence. Ce n'est pas de la concurrence. C'est tout sauf de la concurrence, puisque ce sont des marchés qui sont… Mais non, parce que la concurrence, c'est quand on laisse le marché ouvert. Là, on ne laisse pas le marché ouvert. On taxe certains, on détaxe d'autres,
En fait, c'est des privilèges qui sont accordés à certains marchés. Exactement. Parce qu'il y a une réglementation et une surtaxation du marché local. C'est complètement absurde.
Il y a une taxation, une surtaxation du marché local, plus une surlégifération du marché local. Mais également dans les marchés extérieurs, ce n'est pas tous les marchés extérieurs. Là, il y a un accord avec le Mercosur, donc ils vont baisser les taxes d'importation sur les bœufs provenant du Mercosur, mais pas sur les autres, tu vois. Donc même, c'est pour ça que je dis bien, c'est bien l'inverse de la concurrence. Pensez, faut comprendre un truc. Si demain, les législations de merde de l'Europe et de la France disparaissent et les taxations de merde de l'Europe et de la France disparaissent, les agriculteurs français n'auraient aucun mal à être compétitifs face à ces gens-là. Parce que chez nous, on a des races qui sont extrêmement intéressantes. On a une qualité de travail qui est extrêmement intéressante. On a un savoir-faire qui est extrêmement intéressant. Ancestral. Donc on pourrait, même s'ils arrivent à avoir des choses moins chères, etc., même si c'est le cas, d'accord ? Au niveau de la qualité, le rapport entre la qualité prix français serait extrêmement compétitif. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas aujourd'hui parce que les prix sont démesurés en France et que là, on va faire venir des choses qui sont qualitativement beaucoup moins bien, mais aussi beaucoup moins chères. Donc, c'est vraiment, on déstabilise complètement le marché.
C'est extrêmement simple, mec. Hein. T'enlèves toutes les réglementations à la con et toute la surtaxation, ils peuvent vendre 2 à 3 fois moins cher. C'est sûr et certain.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, pour la même qualité. Et évidemment, ça laisserait, encore une fois, nous, on est pour ce genre de marché, ça laisserait le choix. Ça laisserait le choix dans la qualité, ça laisserait le choix dans le prix, etc. Mais je peux vous assurer que les agriculteurs français, les éleveurs, n'auraient aucun mal à être compétitifs parce qu'on a… On a un savoir-faire, on a un terroir qui est exceptionnel. Donc vraiment, il n'y a aucun intérêt. Et oui, bien sûr, quand il y a quelqu'un qui précise, il n'y a pas que le bœuf, il y a la volaille, le porc. Oui, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tous les animaux de manière générale.
Encore une fois, l'État vous casse les jambes pour ensuite vous donner des béquilles avec la viande du Mercosur.
Exactement, exactement. Donc surtout, allez les soutenir, c'est très important. Vraiment, là, pour une fois, Ça, ça fait plaisir de voir des gens qui veulent pas se laisser faire. C'est la ruralité. S'il y a encore des mecs dans les zones rurales qui ont des couilles, ça se voit là. On le voit. Il y a encore des mecs qui peuvent dire non.
Ça fait beaucoup de sens ce que tu dis, mec. Ce que tu viens de dire, c'est extrêmement cohérent parce qu'en Italie, il y a que 18% des vaches contaminées qui sont réellement abattues. Alors qu'en France, c'est des troupeaux entiers, on ne sait même pas s'ils sont tous contaminés.
De vaches non contaminées, oui, bien sûr, des troupeaux entiers de vaches non contaminées, ça n'a aucun sens.
C'est-à-dire qu'en Italie, il y a la réglementation européenne, mais il y a un certain savoir, que c'est pas un savoir-faire, c'est un sens commun qui fait qu'au final, elle n'est pas appliquée de manière complètement débile et complètement dictatoriale.
Ouais, c'est ridicule.
Et bon, bref. Et en plus, mec, si on parlait un peu plus d'incitatif, les éleveurs, ils n'ont aucun intérêt à détruire leur marché. Ils n'ont aucun intérêt à laisser des vaches qui vont détruire le marché, qui vont propager un virus qui va tout détruire.
Mais évidemment, vous croyez que les mecs, ils ont fait ça toute leur vie, pour la plupart, leur famille aussi. Vous croyez qu'ils ne savent pas comment il faut s'occuper d'une vache malade? Non, mais vous croyez que s'il y avait vraiment un danger de perdre tout leur troupeau, ils ne seraient pas les premiers à faire. Enfin, sérieusement, ça n'a aucun sens.
Ne serait-ce que de niquer le marché.
Et surtout, ça n'a aucun sens parce qu'en fait, c'est quoi le but à terme? Parce que le but qu'on va vous mettre derrière, soi-disant, c'est pour éviter la propagation de la maladie. Donc, éviter des dizaines de morts, en fait, parmi les troupeaux. Donc, on tue des centaines, voire des milliers de vaches pour éviter qu'il y en ait des dizaines qui meurent. Oh, c'est intéressant. Hein,
pour un truc qui ne peut même pas atteindre l'homme ou d'autres animaux. Ça n'a aucun sens, techniquement parlant.
On n'envoie pas les vaches à l'abattoir, hein. On les euthanasie. Donc, c'est-à-dire que c'est par injection. Donc, la viande est non consommable après.
Putain.
Donc, en plus, c'est des centaines de milliers de tonnes de viande bovine à la poubelle. Intéressant, hein ? Vraiment, c'est parfait. Moralement, c'est la France d'Emmanuel Macron. Quoi.
C'est sur tous les plans, c'est parfait. Et puis, c'est l'Union européenne d'Ursula von der Leyen dont on va parler juste après. Mais, mec, on en revient à la même chose. En fait, c'est des mecs en costume-cravate qui connaissent rien à rien, qui prennent des décisions à la place des gens qui ont les mains dans le travail, qui ont les mains dans le cambouis et qui font ça depuis des décennies. Au lieu de laisser l'individu souverainement choisir ce qui est le mieux pour lui, pour son marché, c'est un enculé d'Union européenne qui va imposer une directive.
Un connard dans un bureau qui n'a jamais vu une vache de sa vie, qui ne sait pas si les cornes sont devant ou derrière les oreilles. Quoi. Ah, mais je te jure, putain.
Et puis en parlant justement d'Union européenne, est-ce que tu veux changer de sujet ou est-ce que tu as autre chose à rajouter?
Non, mais je pense qu'on a fait le tour, mais c'est important qu'on commence par ça, je pense.
Ah oui, non, vraiment, parce que regardez qui est justement à la tête de l'Union européenne qui impose toutes ces réglementations.
Quel est le portrait que la presse m'a dressé d'Ursula von der Leyen? Et en fait, je me rends compte que c'est assez peu détaillé, c'est-à-dire qu'on me fait des effets de cinéma en me disant « elle est fantastique, elle est allemande, elle est très connue, elle est puissante, tout ce qu'on veut », mais par contre, savoir d'où elle vient, quel est son passé en Allemagne, c'est quelque chose qui est assez peu présent dans la presse. Et donc on peut voir par exemple que dans sa jeunesse en Allemagne, elle a été exfiltrée par les services anglo-saxons, qu'elle a dû déménager à Londres, où elle a vécu sous une fausse identité avec le nom de Rose Latson. Elle a fini après par partir aux États-Unis où elle s'est mariée, et après on lui a construit une carrière en Allemagne. Donc si déjà on explique ça à la population, c'est quelque chose d'assez troublant et étonnant, parce que ça en dit long sur l'indépendance qu'elle peut avoir par rapport aux intérêts anglo-saxons. Donc c'est quelque chose qui est très marqué chez elle. Et en plus de ça, on peut voir, par exemple, qui était le père d'Ursula von der Leyen, qui porte le nom normalement d'Albrecht. Son père a écrit un livre. Alors, je suis très amusé dans mes recherches de voir que en 1976, parce que je suis en France, pas en Belgique, le père d'Ursula von der Leyen a écrit un livre qui est quand même une espèce de promotion du totalitarisme en nous expliquant que l'être humain peut être réifié, que c'est un engrenage d'une machine, et il va jusqu'à faire la promotion de la torture d'État dans son livre, ce qui, dans ces années-là, avait choqué la presse comme Le Monde ou Amnesty International. Et aujourd'hui, quand sa fille en fait ne fait qu'appliquer l'idéologie qu'on retrouve dans le livre du père, les mêmes acteurs en fait n'y voient rien de scandaleux à l'heure actuelle.
Eh ben...
Eh oui, ben voilà, non mais ça en dit long, encore une fois, sur qui nous gouverne. Encore une fois, quand je dis qu'on pointe les autres pays du doigt, mais l'Union européenne, je reste convaincu que l'Union européenne est l'institution la plus corrompue au monde à l'heure actuelle. C'est littéralement l'institution la plus corrompue au monde, et on est vraiment en train de basculer totalement vers des dictatures qui sont quasi assumées maintenant. On est passé de dictatures molles, cachées, à des dictatures quasi assumées, et ça ne dérange personne, c'est scandaleux.
Ils ont sorti le bouclier de la démocratie, comme on en avait parlé récemment. Ouais. Putain, ils s'en cachent pas. Il n'y a personne qui est élu dans cette putain d'Union européenne, du moins pas dans les comités décisionnaires. Ursula von der Leyen, elle n'est pas élue par n'importe quel peuple non plus.
Bah.
Mais par contre, ils vont remettre en cause la démocratie en Roumanie ou dans d'autres pays.
Exactement. Non, mais exactement. Ce sont des gens que personne n'a élus, sur lesquels on n'a aucun droit de parole, qui prennent des décisions sur des pays entiers et qui vont vous parler après, vous expliquer ce que c'est la démocratie et la dictature. C'est scandaleux.
C'est un peu comme Kamala Harris, hein, le papa ultra-communiste, prof à l'université marxiste. Elle, c'est pareil, elle a son petit papa, un bon gros totalitaire socialiste.
Au moins lui, il avance visage découvert. Tu vois ce que je veux dire, son père. Son père, il écrit un bouquin, il fait voilà ce qu'il faut faire, tu vois. Le père de von der Leyen.
Ursula et de Kamala, les deux.
Il te dit, il faut la démocratie. Tu vois, il te dit directement, il faut la dictature pour imposer mes idées, tu vois. Eux, ils font la même chose, ils appliquent ça, mais ils te disent non, mais c'est pour la démocratie, tu vois. C'est des espèces d'histoires de barbouze, tu sais, c'est vraiment, mais putain. Ouais.
C'est limite comme si elle était manipulée, quoi, comme si c'était une marionnette qui avait des trucs à se reprocher.
Il n'y a même pas besoin d'être
à la Macron, quoi.
Pour savoir que tu peux être sûr qu'il y a des histoires de CIA, de machin comme ça dans l'eau, c'est toujours pareil. T'as l'état profond américain, les choses comme ça. Tu peux être sûr que c'est tout sauf nos intérêts, ça c'est évident.
Les francs-maçons, ils ont les preuves formelles que Macron est marié à un trave et ils le tiennent en laisse comme ça, sinon ils dévoilent tout.
Là, les gens sont déjà plus dans le
complotisme. Bon, on ne sait pas, tout est possible.
C'est ça le pire. Tu sais que toutes ces histoires de Jean-Michel Trogneux et tout, je ne sais même plus quoi en penser. Tout est possible. Aujourd'hui, c'est tellement South Park qu'en vrai, tu te dis, bof. Pourquoi pas, tu vois. Enfin, franchement,
en fait, on n'a pas de certitude absolue, mais on se dit que c'est possible. C'est la position la plus honnête.
Si demain il y a une vidéo qui sort de comment elle s'appelle déjà, Brigitte Macron, qui en fait est Jean-Michel Trogneux et qui est sur une île avec Jeffrey Epstein en train de des gosses, on se dira bah ouais, en fait, ouais, tu vois, c'est, je suis même pas surpris, tu vois. C'est genre, moi franchement, je serais même plus surpris. Il y a plus rien
Nous
surprendre, tu crois. Franchement, il y a plus rien qui peut nous surprendre, en vrai.
Ouais. Non, c'est sûr. Hein. De toute façon, comme le dit très bien Hans Hermann Hoppe, la démocratie, ça attire au pouvoir la pire race parmi les êtres humains, les psychopathes qui sont assoiffés de pouvoir, ça les concentre au même endroit. Et donc, s'il n'y a rien d'étonnant qu'au sein de ces politiciens, il y a des gens horribles comme ça.
Oui. Et d'ailleurs, ça fait une belle transition avec le prochain sujet, sauf si tu veux... C'était pas celui-là, le prochain sujet sur la pédophilie?
Ben en fait, il y avait un autre sujet avant sur les collectivités et administrations publiques qui doivent acheter sur un catalogue. Je ne sais pas si tu veux parler de ça ou si tu veux aller directement sur le prochain sujet. C'est une bonne piqûre de rappel, les gars. En plus, cette nana, on l'avait déjà vue. Elle avait déjà fait l'intervention il y a quelques années. Maintenant, on la revoilà.
Très vite, Madame le maire nous présente sa machine à café.
Oui, je me rappelle.
Et vous allez comprendre pourquoi.
Alors, c'est cette cafetière que vous trouvez dans tous les commerces. J'ai mis 4 mois déjà à la voir. Une fois qu'elle est livrée, j'ai dit, dites donc, vu le temps que ça a pris, j'espère au moins qu'on a eu un prix. Et c'est là qu'on me donne le prix. Et donc, cette petite cafetière que n'importe qui pourra aller voir dans le commerce pour pouvoir comparer, qui est globalement autour de 60 euros ou 60-65 euros dans le commerce, on l'a payée 160 euros. Et c'est là où j'ai commencé à dire, sortez-moi un peu tous les prix, c'est pas possible. Et là, j'ai été édifiée.
Des exemples comme celui-ci, Stéphanie Van Heuve assure en avoir des dizaines. En voici un autre dans le bureau d'à côté, ce fauteuil acheté dans un catalogue.
Il est facturé à la ville 260 euros, encore une fois le même, sur un catalogue classique, pour une entreprise classique, privée, il aurait été facturé 90 euros.
Ton constat vaut pour le mobilier, les logiciels, les travaux en tout genre. Bref, quand on demande à l'élu de nous décrire la situation, elle ne mâche pas ses mots.
La grande arnaque, c'est on a l'achat public, on a le sentiment vraiment, enfin c'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, c'est de se faire arnaquer, c'est-à-dire que le prix public est très éloigné du prix privé, donc qu'est-ce qui le justifie, hormis des techniques d'achat qui méritent d'être éclaircies. C'est pas parce que c'est de l'argent public que ça compte moins, ça devrait être exactement l'inverse. C'est de l'argent public, donc ça devrait compter encore plus.
C'est mignon, sa petite conclusion.
Non, mais elle a raison, mais oui, on avait déjà diffusé un truc similaire avec elle, mais c'est important de remettre une couche dessus pour bien comprendre quand on vous dit qu'il y a des histoires de corruption, etc., avec l'argent public, mais regardez, là, ce sont des preuves évidentes, parce qu'en fait, c'est pas en l'air comme ça. C'est pas pourquoi c'est obligatoire de commander cette machine et pourquoi elle fait 3 fois le prix du commerce, parce qu'à 160 euros la machine elle fait le café, j'espère qu'elle me suce aussi, tu vois. Non, c'est juste le café là, tu vois. Donc je veux dire, Pourquoi ? Mais parce qu'il y a un intermédiaire, tu vois, qui est décisionnaire, un administratif de merde, un haut fonctionnaire, je sais pas quelle saloperie, qui s'en met au passage dans les poches, qui signe, qui décide de quel contrat est avec qui et qui dit, bah, écoute, la machine, tu l'as sur facture 160 et tu me reverses tant sur mon compte offshore. C'est évident. Et comme elle dit, bien comme bon. C'est l'argent public, on s'en bat les couilles. Mais ça, là, combien il y en a, combien des milliers de machines à café, de sièges, de tables, de fenêtres, etc., dans tous les domaines. Mais c'est complètement
les
scandaleux.
Les rideaux dans les écoles publiques coûtent 8 000 euros pièce. J'avais vu ça, ça m'avait choqué.
Mais c'est pour ça qu'il faut un truc à la Milly, etc. Parce qu'en fait, vous ne pouvez plus détricoter le truc. C'est tellement à tous les niveaux, sur des centaines de milliers de trucs différents, partout, il y a de la corruption, du gaspillage à absolument tous les étages et des imbrications partout. Et en fait, il faut tout raser, il faut tout recommencer, il faut détruire tous ces trucs-là. Il y a toutes les collectivités, les micro-collectivités, les trucs, mais c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Donc, il faut complètement revoir notre système de zéro. C'est impossible de s'y attaquer pièce par pièce. C'est impossible, oui. Ça prendrait des décennies littéralement. Non, mais c'est vrai. Ah ben c'est plus soignable, en fait. C'est plus soignable. Il y a un moment où il y a trop de métastases.
Faut couper la jambe.
Faut amputer. Voilà, exactement. Là, faut amputer. D'accord. C'est plus possible. La gangrène. Mais non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais ouais, sinon, c'est pas la peine de faire genre. C'est pas en avec. Non, mais un verre de vin au déjeuner et des vitamines le matin. Non, c'est le mec est gangréné de partout. Il faut couper, là, tu vois.
Ouais, vaut mieux vivre avec une jambe artificielle qu'avec la gangrène jusqu'à la fin.
Ah ouais, non, c'est plus possible.
Et d'ailleurs, mec, comment est-ce qu'il justifie ça d'obliger des collectivités à acheter dans des catalogues d'État alors que c'est moins cher sur le libre marché ? Comment tu justifies ça d'un point de vue moral ?
C'est là où c'est fort, c'est qu'ils n'ont pas le justifié. Puisque...
Ouais, c'est ça, ouais.
Puisqu'en fait, ils n'ont pas le justifié. C'est comme ça, point.
Sur le marché privé, c'est moins cher, mais vous devez acheter sur notre catalogue où c'est plus cher avec l'argent du contribuable. Mais il y a un article.
On ne compte à rendre à personne. Il n'y a personne qui leur pose la question. Est-ce que tu as vu un journaliste, Élise Lucet, là, l'autre grosse pute, elle est où là ? Elle n'est pas là. Il n'y a personne. Est-ce que tu as déjà vu un haut fonctionnaire se retrouver sur un plateau télé face à des journalistes et qu'on leur demande clairement, donnez-nous la raison ? Mais non, jamais. Il n'y a pas besoin. Ils n'ont jamais. C'est pour ça, les journalistes, c'est des races de merde. Ils ne servent absolument à rien. Des scandales, des machins. Mais des émissions, il y en a des milliers à faire. Ils pourraient coincer les gars. Ils pourraient faire des trucs incroyables, des interviews incroyables. Il n'y a personne. C'est tous des larves parce que c'est pareil. Ils tous touchent. Ils vivent tous de l'argent public aussi. Ils sont tous ultra subventionnés. Donc, ils sont tous complices. C'est pour ça. Ah,
c'est littéralement les
plus. Les journalistes, mais quelle sale race, bien sûr, bien sûr.
C'est littéralement tous. Autant un mec qui paye ses impôts, là, c'est un peu le barman ou le propriétaire de bar qui est extorqué par la mafia, autant le journaliste qui est payé et qui dit exactement ce que la République veut qu'il dise, c'est une prostituée.
Bien sûr. Mais c'est incroyable. Des putes, c'est tous des putes, bien sûr, évidemment.
Et pour terminer là-dessus, il y a un article de Contribuables Associés très intéressant qui nous explique que d'un montant de 400 milliards d'euros, la commande publique est minée par des normes excessives, une gouvernance éclatée et des choix souvent inefficaces. Pour Simon Huzenat, président de la commission d'enquête sur la commande publique, et Danny Wattbled, le verdict est sans appel. Une inflation de normes désoriente acheteurs et entreprises. On est sur une véritable armée mexicaine, direction des achats de l'État, direction des affaires juridiques de Bercy, commissariat général au développement durable. Ces acteurs cohabitent sans coordination, selon les mots de Danny Wattbled. Donc, au final, il justifie ça pour des raisons de réglementation, d'accès à des prix similaires pour tout le monde, mais au final, tout le monde paye plus cher et a un service de merde, comme d'habitude avec l'État.
Ben voilà, c'est ça.
Comme d'habitude avec l'État. Et même lorsqu'il s'agit de vos enfants, et c'est là où on atteint des absurdités et puis des niveaux de souffrance inimaginables à cause de l'État. Même lorsqu'il s'agit de vos enfants, l'État est une énorme bête froide qui fait n'importe quoi. Écoutez comment ils embauchent les animateurs qui travaillent dans les écoles auprès de vos enfants. Je vous mets ça tout de suite.
Vous vous êtes présenté vendredi dernier à la direction de la jeunesse de la ville de Créteil.
Oui, mon faux CV en main, ma lettre de motivation et un micro dissimulé dans ma chemise. Je n'ai pas de rendez-vous, mais un recruteur me reçoit immédiatement. Il me pose d'entrée de jeu une série de questions pratiques, notamment sur ma disponibilité. Sa voix a été modifiée pour conserver son anonymat.
Vous vous postulez pour quoi exactement ?
Je suis assez flexible, donc...
Tu dis pas mon animation ou pas du tout ?
Non, pas du tout.
Vous êtes disponible dès aujourd'hui ou pas ?
Oui.
Problème avec la justice ?
Non.
Je n'ai pas le droit de m'engager à le retour du cahier judiciaire, mais là j'ai vraiment...
D'accord. Voilà, on entend très mal, hein. Mais ce que dit le recruteur, c'est que normalement, il n'a pas le droit de m'embaucher sans le retour de mon casier judiciaire, mais que là, il y a trop de besoins, donc il va faire l'impasse, il ne regarde pas mon CV, ne vérifie pas mon identité. 3 minutes seulement après notre rencontre, il me demande de me rendre dans une école de la commune sur le temps de midi.
Donc les codes, vous prenez Google Maps, donc là, il faut y être pour 11h30, donc,
okay.
Et vous vous présentez après, j'y explique. Nous, il n'y a pas de souci, pour okay. La cause méridienne, il n'y a pas de problème, après, reste occuper des enfants pendant qu'ils mangent. Mais sauf que tu peux faire un petit peu des jeux avec eux, soit dans la course, soit dans une salle.
L'entretien aura duré en tout et pour tout 8 minutes. Je me mets donc en route vers l'école, sans contrat de travail, sans connaître mes horaires et mon salaire pour la journée.
On est d'accord, donc vous avez ce rendez-vous vendredi matin et vous avez pu travailler 2 heures dans une école élémentaire de la ville ce même vendredi.
Oui, j'arrive 20 minutes plus tard au point de rendez-vous, une école élémentaire.
Oui, bonjour, je suis l'animatrice périscolaire pour ce midi.
La responsable m'accueille et m'apprend que l'école est une école Ulysse, dont une partie des élèves sont en situation de handicap. Tout va très vite, les animateurs ont beaucoup de travail. Nous ne sommes qu'une petite dizaine pour gérer les enfants sur la pause de midi. Je ne suis jamais seule, je suis accompagnée d'une autre collègue avec qui je peux discuter.
Vous êtes un animateur périscolaire aussi ? Je ne m'attendais pas à commencer aussi vite, quoi.
Ah ouais ? Pourquoi ?
Parce que j'ai déposé mon CV ce matin et puis...
On a grand besoin.
Vous avez des besoins ?
Sur toutes les écoles, parce qu'il y a beaucoup d'absents là.
Ouais.
Là, c'est très bien.
Mamadou et Eden, allez-y.
Souvent, des gens comme moi qui viennent à la volée, comme ça.
Oui. Ouais. Hier, on en a eu deux. Ça tourne.
Ça tourne beaucoup, ouais.
On appelle, c'est des volants. Moi, par exemple, je suis pas fric.
Enfin bon, vous aurez compris, voilà comment l'État embauche les gens qui travaillent avec vos enfants.
Voilà. Et puis, attention, hein. Donc, l'État embauche des gens au hasard complètement pour être avec vos enfants, donc sans aucune vérification, sans aucune... Aucun qualificatif.
Même pas l'identité. Rien. Hein. Je vérifie même pas l'identité.
Rien. Des gens qui viennent une journée ou deux, qui sont irretrouvables après, d'accord ? On vous oblige à mettre vos enfants avec eux, d'accord ? Et on vous interdit l'école à la maison. On interdit aux écoles hors contrat de faire leur propre truc de leur côté. Non, il faut qu'ils soient contrôlés, etc. par l'État. Mais c'est qui les dangers, là ? C'est qui ? C'est les écoles privées ? C'est l'école à la maison ? Ou c'est l'école publique ? C'est l'école publique, le danger ? Je vous le dis, hein, aujourd'hui, l'école publique, c'est la pire chose que vous puissiez faire à vos enfants, littéralement. Mettre vos enfants à l'école publique, c'est un danger mais innommable, que ce soit pour leur santé mentale, physique, tout. Il ne faut absolument plus mettre les gosses à l'école publique.
J'ai fait un podcast avec un surveillant, mec. J'ai fait un podcast avec un surveillant dans la découverte des abonnés sur mon Patreon. Il m'a dit, moi... je n'enverrai jamais mes enfants, mes filles à l'école publique parce que ce serait les envoyer dans un endroit où elles risquent de se faire violer.
Non mais voilà ce qu'il m'a dit. Évidemment, que ce soit les risques physiques, que ce soit mental, parce que l'éducation aujourd'hui qu'on leur donne est dramatique. Et vous ne pouvez pas, vous avez beau dire non mais nous on est derrière eux, on surveille, etc. Votre enfant ne capte pas tout ce qu'il entend. D'accord ? Oui. Il y a des choses qui ne lui semblent pas importantes. Vous n'êtes pas avec lui en cours. Pour tous les cours. Donc, vous n'entendez pas tout ce qu'on leur dit. Vous ne savez pas, vous êtes habitué à voir les pièges, la propagande, etc. Votre enfant, il ne l'est pas. Donc, de temps en temps, il va vous dire une dinguerie. Vous allez dire, putain, ok, là, vous allez repérer. Mais il y a, pour une dinguerie qui vous dit, il y en a 15 qui passent à la trappe. Donc, ce n'est plus possible, vraiment.
Putain, c'est incroyable. Et un truc important, mec, à noter, c'est que justement, les pédos, ils sont représentés dans tous ces métiers-là parce qu'ils recherchent à travailler dans ces métiers-là. Ils vont vouloir aller travailler avec des enfants, donc
évidemment,
des métiers comme ça.
Évidemment,
c'est pour ça que
évidemment.
C'est une catastrophe. Et une école publique, contrairement à... En fait, une école privée ou une association privée, elle doit faire extrêmement attention à qui elle embauche pour des raisons de réputation. Sinon, elle perd tout. Mais tous ces fonctionnaires d'État et même l'État en tant que tel, ils s'en fichent complètement parce que, comme tu le dis,
c'est obligatoire.
Il ne doit rendre de compte à personne.
Mais c'est obligatoire. Ouais. C'est le meilleur business model, hein, obligatoire.
Obligatoire,
t'as pas choix, la qualité, peu importe les résultats, c'est obligatoire. Donc
ouais, c'est ça, je peux rien perdre. J'ai aucun risque, je peux rien perdre, donc je peux faire tout et n'importe quoi. Alors que je peux te dire que la directrice d'une école privée, elle va faire attention avant d'embaucher quelqu'un. Parce que si elle embauche un mec qui serait soupçonné, ne serait-ce que de toucher de manière...
Que les parents décident de retirer leurs enfants, bah c'est de la rémunération qui tombe. Voilà,
ah bah c'est la faillite même, hein. Je pense qu'elle perd 90% de sa clientèle. Hein.
Et puis de ça, manière générale, de toute façon, les gens doivent pouvoir faire... Enfin, c'est pas à l'État de vous dire comment éduquer vos enfants. À un moment, il faut revenir à des bases. À un bout d'un moment, ce sont nos enfants. On décide. On, pas l'État, personne d'autre. On décide.
C'est ça.
Parce qu'on leur met la tête. Point. C'est à personne d'autre de décider.
Il y a une école privée ici au Paraguay. Pour te donner un exemple, tous les parents se sont mis d'accord pour interdire les smartphones aux enfants jusqu'à l'âge de 13 ans, de manière privée, de manière consentie.
Voilà, c'est pas l'état
de l'esprit. Si tu veux pas que tes enfants aient des smartphones, tu les envoies dans une école où les smartphones sont interdits.
Bien sûr. Mais même, ou tout simplement, tu leur donnes pas de smartphone, etc. Enfin, c'est à toi de décider.
Mais après, le problème, ça peut être qu'à l'école, ils aient accès à des smartphones. Mais, non, mais après, le problème, c'est qu'ils peuvent avoir accès à des smartphones à l'école, mais tu peux les envoyer dans des endroits où justement, ils n'ont pas accès à ça non plus.
Ici, c'est très courant, l'école à la maison, d'accord ? Ça se fait énormément. Vous avez même plein de centres qui existent pour les enfants qui ont l'école à la maison. Donc, vous leur faites à l'école à la maison le matin et vous les mettez dans des centres l'après-midi pour qu'ils se sociabilisent avec d'autres jeunes. Il y a plein d'activités où ils font des activités sportives, manuelles, etc. Mais pas des cours, tout simplement, tu vois. Donc, c'est vous qui êtes garant, qui gérez leur instruction. Et à côté, ça vous permet quand même de qu'ils fassent des choses collectives et tout. Ça se fait énormément. D'ailleurs, quand vous comparez, il n'y a pas longtemps, j'ai eu le débat, donc j'ai pu comparer les résultats, etc. Ils ont des meilleurs résultats en plus aux examens que dans l'école publique. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Bref, c'est très important. Ça devrait être un des combats très importants de la droite de pouvoir reprendre la main, d'être souverain de l'éducation des enfants parce que c'est une énorme part du problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui...
La machine, elle avait le cerveau de tous les gamins. Hein.
Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu tard. C'est qu'en fait, la machine, elle avait le cerveau de beaucoup trop de générations maintenant. Et là, ça devient trop compliqué à rattraper. Mais l'éducation nationale a fait une des plus grosses parts du boulot en matière de destruction du peuple français, littéralement.
C'est pour ça que quand vous allez en ville et vous marchez dans une rue piétonne, tous les gens que vous croisez, c'est des fils de pute de socialistes.
Il y a quelqu'un qui dit que faire l'école. Oui, mais c'est vrai, faire l'école à la maison, apparemment. En fait, l'école à la maison en France, c'est extrêmement encadré. Donc, il faut être, soit les gens du voyage, soit avoir des conditions médicales complexes, etc.
Ah bah c'est quasiment jamais accepté.
Mais c'est quasiment jamais accepté. Il faut avoir... Moi, je sais que je connais des gens qui ont réussi grâce à un médecin complice, etc. Voilà, pour donner des conditions à l'enfant. Mais c'est, encore une fois, c'est assez complexe. Donc, c'est pour ça. Ça doit être un de nos combats. Ça doit être un des combats de la droite, normalement, de reprendre la souveraineté de l'éducation. Parce que c'est... Mais, encore une fois, ça a été, je pense, le truc où on arrive trop tard aujourd'hui. Le mal a été fait.
Ah ben en fait, moi je dis souvent ça et c'est extrêmement triste, mais la République a gagné. La République a gagné.
Elle a bien avancé ses pions, hein, ça c'est évident.
Putain. Et d'ailleurs, tout ce qu'on vous dit, c'est pas juste des paroles en l'air, hein. C'est des choses qui ont un impact concret sur les enfants, réellement. Regardez les horreurs qu'il y a dans l'actualité par rapport justement à ces situations-là.
Cet animateur, on ne l'a jamais senti parce qu'on le trouvait trop tactile. Et en ajoutant, mais de toute façon, le périscolaire, ça dépend pas de nous, ça dépend de la mairie. Il y a des gens quand même qui avaient ressenti certaines choses.
Le tournis, la nausée, 60 affaires judiciaires pour pédocriminalité en cours à Paris. La majorité concerne des animateurs du périscolaire, notamment David G., dont le procès devait commencer aujourd'hui avant d'être renvoyé après le désistement de l'avocate du prévenu. Un procès dans lequel vous représentez, Maître Anacop, 6 familles. Notamment les parents d'une petite fille de 5 ans, dont le comportement a brutalement changé. Elle ne veut plus se rendre aux activités périscolaires, pleure, présente des troubles inhabituels, et c'est en l'interrogeant que ses parents ont découvert l'impensable.
Tout à fait. Ces révélations-là ont été un énorme choc pour les parents. Et ce qui a été d'autant plus difficile pour les parents à entendre, c'est que la petite parlait également d'autres enfants de son école et de sa classe. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des plaintes en cascade à la suite de ces révélations-là, et que tout est allé extrêmement vite, puisqu'il y a eu cette plainte qui a été déposée au commissariat dans le 11e, et que par la suite, tous les parents se sont un petit peu passé le mot. Et au fur et à mesure, les enfants ont fait des révélations à leurs parents et se sont rendus à la brigade des mineurs pour recueillir les plaintes, puisque le dossier avait été transféré à la brigade des mineurs.
Cécile Olivier, à ce moment-là, quand David G est suspendu après cette plainte, beaucoup de parents ont compris les raisons du changement de comportement de leurs enfants. Et vous parlez d'une épidémie silencieuse de troubles chez ces élèves. Quel genre de troubles ?
Oui, en réalité, depuis le début de l'année scolaire, il y avait des enfants qui avaient de nouveau de l'énurésie, qui faisaient pipi au lit, qui refusaient de se doucher, qui avaient des difficultés pour manger. un petit garçon aussi qui s'était mis à exhiber ses parties génitales.
De donc, façon obsessionnelle. Quoi,
des enfants qui n'allaient pas bien, mais chacun vivait ça isolément dans sa famille jusqu'à ce que l'affaire éclate et qu'ils comprennent que ces enfants qui sont tout petits, on le rappelle, donc c'est compliqué les tout petits de...
Bon, il n'y a aucun père de famille là pour aller lui exploser la gueule, assise de pute, quelque part. Tu sais, un père d'un gamin qui a été touché, c'est pas n'importe qui. Hein.
Bien sûr.
Sur tous les gamins qui ont été touchés là.
En plus. Et rappelez-vous, hein, rappelez-vous pendant combien d'années on vous a lavé cerveau avec la pédocriminalité dans l'église, etc., en vous expliquant le nombre qu'il y avait, je sais pas combien de prêtres qui étaient des pédophiles, etc., pour des cas, hein, pour des cas, attention, hein, je le renie pas, hein, ça a existé, et ça existe peut-être encore, et ça doit être extrêmement condamné, mais la proportion par rapport à ce qui est dans l'éducation, elle est ridicule. Et que le traitement médiatique, par contre, il est absolument disproportionné.
Il y a un chiffre ultra important, mec, hein, ultra important, je te laisse continuer, qu'on n'a jamais dit, c'est que la pédocriminalité au sein de l'Église catholique, elle est inférieure proportionnellement à la pédocriminalité dans la société en général.
Ah oui, non, mais non, bien sûr, parce que dans les systèmes d'éducation, etc., c'est des milliers de fois plus que ce qui s'est passé dans l'Église pour absolument aucun traitement médiatique, évidemment. Et ça, c'est scandaleux. Ces gens-là, dans une société normale, en fait, ces gens-là devraient être absolument abattus. Et puis c'est tout, voilà, on exécute.
Ah oui,
et on passe
quand
à
je dis
chose.
Exploser la tête, c'est au sens littéral du terme. Hein.
Bien sûr, on exécute et on passe à autre chose. C'est scandaleux. Et vous voyez, et là, pour ces affaires qui sortent, c'est combien de milliers, combien de centaines d'affaires qui sont étouffées. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On va vous obliger à mettre vos enfants dans ces trucs-là sans pouvoir garantir aucunement leur sécurité. Vraiment, c'est odieux. C'est
immonde. Je sais pas si t'as entendu, mec, hein, mais il avait été signalé pour avoir touché le sexe d'un enfant en bas âge. Du coup, ils l'ont fait passer avec des enfants plus âgés.
Non, mais bien sûr. Ah oui, mais
c'est vous rendez bordel.
Mais bien sûr, mais c'est aussi sordide que ça, mec. C'est aussi sordide que ça. C'est ridicule.
C'est horrible. Et toutes ces journalistes là qui pleurent, à juste titre évidemment, sur le plateau, mais c'est les mêmes qui vont défendre la justice française et les juges d'application des peines quand on leur crache dessus.
Ouais, c'est ça. C'est les mêmes qui font des articles pour nous expliquer qu'on menace les juges.
Ouais. Et souvent, c'est même pas l'application de la peine, mec, qui a un problème. C'est la peine initiale en tant que telle qui est extrêmement problématique. On voulait vous montrer un autre extrait à ce sujet-là.
Parmi les 26 détenus, un est sûr de sortir, même si le CME considère qu'il y a un risque élevé de récidive. Dans 6 mois, Laurent, condamné pour pédophilie sur une quarantaine d'enfants, aura purgé la totalité de sa peine. Le juge, qui a demandé un avis sur sa dangerosité, pourra seulement lui imposer des contraintes comme un bracelet électronique ou des interdictions de territoire.
Bonjour, fouille de cellule. Fouille de cellule. Vous sortez ?
Quand les surveillants fouillent la cellule de ce criminel sexuel, ils ne s'attardent pas sur les mêmes détails que pour les autres détenus.
BFM. On essaie de voir qu'est-ce qu'il regarde à la télé. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Mais une affaire de mœurs, comme le détenu est né. C'est une affaire de mœurs. S'il s'amuse à regarder des émissions avec des enfants, ben ça va forcément nous tirer la sonnette d'alarme. On fait attention.
Lors de son arrestation, les enquêteurs ont découvert plus de 350 000 photos et 6 000 vidéos pédopornographiques sur son ordinateur, parfois celles de ses propres victimes. Il était informaticien et échangeait ses contenus sur Internet. Mais après 14 ans en prison et autant d'années de suivi psychologique imposé par le jugement, quelques groupes de parole, il dit avoir changé.
Je sais que pour moi, je vais très bien, je suis équilibré, j'ai pris beaucoup d'assurance aujourd'hui. Je suis en paix avec moi-même. Bon, j'ai toujours ce poids de la culpabilité, ça c'est obligé, je vivrai toute ma vie avec ça. Mais justement, c'est ça aussi qui me permet de tenir, de me dire, ouais, mais stop, faut arrêter là. Et puis, être un homme...
Putain, il peut se permettre de se foutre de la gueule du monde, lui. Hein.
Et attention, hein, 14 ans, il fait partie des longues peines déjà. Il fait déjà partie des longues peines. Hein. C'est pas tous hein, qui font autant. Hein. Et il y a une haute chance de récidive, mais c'est pas grave, on laisse dehors.
C'est combien au Texas déjà en moyenne?
Ben, pour la pédophilie, j'en sais rien. Pour les viols, déjà, j'avais regardé, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'était autour de 22 ans, il me semble. On avait regardé
deux, trois fois plus qu'en France. Plus.
Ouais. C'était pour un viol. Ouais. C'était pas pour 40 actes de pédophilie. Hein. Là, pour
mais là, c'est, ça,
c'est la prison. C'est la
prison. La chaise aussi. Hein.
C'est la prison.
Il y a la chaise aussi.
Il n'y a pas de meurtre, il y a rarement la chaise électrique. Mais c'est la prison
à vie. Pédophilie plus meurtre.
C'est la prison à vie, quasi sûr. Là, c'est évident. Évident.
14 ans, mec. 14 ans, tu fais de la fraude fiscale pour des milliards d'euros, tu peux prendre 14 ans de prison.
Non, mais bien sûr, mais c'est ridicule. C'est ridicule, on laisse sortir et puis voilà. Bah, là, bien sûr, encore une fois, hein, personne, pas de nom de juge, rien, non. Donc quand il aura récidivé, ce sera la faute de personne, on pourra s'en prendre à personne, voilà. Donc il y a des parents, quelque part, qui ne le savent pas encore, qui vont peut-être avoir leur enfant qui va se faire par ce mec, mais voilà, c'est la faute de personne, et surtout, incontestable, surtout ne contestez pas la Grande République, les prêtres, les oracles de la République, les gourous, tout ça, non, c'est...
Mais il y a 99% de chances que ce type est récidive.
Oui, même eux, qui d'habitude, tu vois, même eux, ils disent qu'il y a de fortes chances de récidive. Mais il n'y a rien eu de suivi psychologique. Mais arrêtez, on connaît ces bidons, tous ces trucs-là. Ça va, ça fait combien de fois qu'on s'est fait avoir? Faut arrêter, tu vois.
Badinter et compagnie, hein.
Bien sûr, c'est la politique Badinter, c'est évident.
Eh ouais, putain. Et souvent, c'est... tiens, je vais te montrer vite fait les commentaires, parce que, encore heureux sur ce genre de sujet, il y a un peu de bon sens encore.
Mais c'est évident, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent pas de référendum sur la peine de mort, etc. Hein.
J'ai une solution pour lui et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir.
Évidemment. Mais ils savent très bien que l'opinion publique elle est favorable à la peine de mort pour ce genre de cas. Ils le savent très bien, c'est pour ça qu'ils demanderont jamais la vie de personne. Ça, c'est évident.
40 victimes pour 14 ans, eh bien, ça fait à peine quelques mois par enfant abusé, c'est dingue. Et les cambriolos prennent 15 piges, les cambrioleurs. Aux États-Unis, ils auraient pris 350 ans de prison. Aux États-Unis, il aurait pris plusieurs vies de prison, hein. C'est ça la réalité.
Mais c'est vraiment possible, ça dépend des états.
Le problème aurait été réglé. Hein.
Ouais.
Bon, dernier commentaire. Bon, ils savent bien qu'il va recommencer, mais on le remet dehors, niqué de la justice, vraiment, c'est le top. Bref, t'as raison, c'est comme l'Union Européenne. Hein. S'ils avaient respecté le référendum, on ne serait pas dans cette énorme merde. Là, s'ils faisaient un référendum, la justice aurait tout un autre visage en France. Parce que même sur ce que tu nous as dit récemment concernant... la responsabilité des juges, je pèse mes mots. La majorité des Français sont d'accord avec toi, sont d'accord avec nous.
Évidemment. Et ça dépasse les clivages gauche-droite, d'ailleurs, hein, pour beaucoup. Évidemment.
Et tu sais que parfois, il n'y a même aucune peine de prison pour des rapports sexuels avec des mineurs de plus de 11 ans. Regarde ça, c'est incroyable.
On arrête un réseau de... On arrête le MAC. Et là, on va arrêter 18 personnes. Qui ont consommé les enfants. Donc c'est
un avocat qui est spécialisé, lui, je t'ai impressé.
Pour avoir une relation sexuelle tarifée avec des enfants entre 11 et 14 ans. L'intégralité de ces 18 personnes sont passées dans ces audiences maintenant de plaidé coupable, en CRPC.
C'est-à-dire en comparution immédiate ?
Non, comparution immédiate, il y a un juge qui va vous poser les questions. Non, là, on va leur proposer une sanction. Ils ont eu, le plus lourd a eu 800 euros à payer. Alors, Adi, je veux bien qu'ils nous donnent des leçons de vie.
Pour avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs.
Ils se sont fait attraper en train d'avoir une relation tarifée avec des mineurs. Il y en a 18 entre 11 et 14 ans. D'accord. Et le parquet d'Albi, c'est indigne. Au lieu de mettre ces gens en prison, parce que ce n'est que de... Si demain, dans votre téléphone, il y a 3 photos d'enfants à poil, on va vous mettre au ballon.
Oui.
Tout de suite. Mm-hmm. Celui qui se fait arrêter en ayant un rapport sexuel tarifé avec un mineur à Albi, il prend 900 euros.
Donc, expliquez-vous, qui êtes avocat.
Parce qu'il n'y a pas de politique globale. Parce que comme on tait ce problème de la protection des mineurs, on le tait. Parce qu'on en a honte aussi. Hein. Et parce que c'est à huis clos, encore une fois. S'il y avait une caméra, ça s'arrête. Hein. Moi, une caméra à mon audience d'hier, dans 3 jours, cette matière n'existe plus.
Mais à Albi, quel est le journal local à Albi ?
J'en sais rien. Bon, mais les journaux, ça ne les intéresse
personne
pas.
Personne n'a parlé de ça.
Les journaux, ça ne les intéresse pas. Mais, ah non, 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 excusez-moi. Moi, j'ai une petite fille qui a écrit une lettre en disant « Ceux qui sont responsables de moi sont responsables. » Elle s'est jetée dans le pont. On a trouvé sa tête à 3 mètres de son tronc. J'ai eu 3 lignes dans la Provence. Ça n'intéresse pas.
Et c'est important. Une petite fille qui s'est suicidée et on a retrouvé la tête à 3 mètres de son tronc.
Ah, mais je sais.
Putain.
Mais c'est, tu vois, c'est intéressant ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Si les audiences étaient filmées, ça n'arriverait pas. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que les juges auraient à rendre des comptes. Parce que les gens le reconnaîtraient dans la rue et lui diraient « Et pourquoi vous avez laissé des mecs s'en sortir ?» C'est pour ça que c'est important. Les audiences publiques, les noms des juges, stop à l'anonymat des juges, stop aux audiences cachées. C'est pas possible. Il faut que ce soit public. Il faut qu'ils rendent des comptes. Il faut que ces gens rendent des comptes. On doit savoir ce qu'ils font. Tout le temps. Tout le temps. Toutes les décisions de justice doivent être en public. Tout. Tous les procès publics et tous les juges. Tous les juges doivent avoir leur nom qui doit être trouvable. On doit pouvoir voir leur historique de leurs décisions, etc. C'est absolument indispensable. C'est indispensable. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'ils le font pas. C'est justement pour pouvoir faire leur magouille comme ça. C'est justement pour ça. Parce qu'ils vous font croire, que non, c'est pour pas que les criminels puissent les retrouver, etc., puissent mettre la pression, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que si ce n'est pas pour que les criminels leur mettent la pression, ça, c'est pour ça qu'on ne donne pas le nom des juges avant. Que tu ne saches pas par qui tu vas être jugé, il n'y a aucun souci pour moi avec ça. Que le nom du juge ne soit pas disponible avant, on ne sait pas, comme ça, il ne peut pas recevoir de pression avant. Mais après que la décision a été rendue, non, je suis désolé, là, ce n'est pas vrai, c'est pour ne pas avoir de compte à rendre aux victimes qui font ça.
Exactement. Putain de merde. Je te propose de regarder vite fait les commentaires autour de ça, qui sont aussi intéressants. Alors, bravo à cet avocat d'essayer de protéger nos enfants. C'est sûr qu'il se met la République et tout le reste à dos. Ah bah, c'est à la justice comme ça.
Pour un mec normal, je veux dire, normalement câblé, un peu moral, tu assistes à des choses comme ça, mais t'en peux plus. T'imagines la nuit, le pauvre, ce qu'il pense. C'est horrible pour lui. C'est horrible.
Ouais, non. Putain, c'est un enfer total. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça, mec ?
Non, c'est tout.
Okay. Dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, hein, dans beaucoup de villages d'Amérique du Sud, un pédophile, il se prend une balle dans la tête, il est jeté dans un fleuve et tout le monde fait comme si rien ne s'était passé.
Ouais, ouais,
il n'y a pas de policier qui vient enquêter ou quoi que ce soit dans ce genre de cas. Bref, t'as encore un peu de temps devant toi ?
Non, là, désolé, il faudra que j'y aille parce que j'ai de la route.
Ah, ok. Bon, bah, t'as raison, mec. En plus, je pense que t'es en bonne compagnie en ce moment au Texas. T'as un pot avec toi. Ah, il est reparti.
Il est reparti. Okay. Là, je pars pour un... J'ai 4 jours de trip de chasse. Là, je vais en profiter pour faire des vlogs et tout et poster sur Patreon.
Tu t'éclates. En tout cas, je suis impressionné par le nombre de potes et de proches qui viennent te voir, mec.
J'ai ma famille qui vient pour Noël.
Ouais,
j'ai ma famille qui vient pour Noël. Ouais, c'est cool. Ouais.
Mais écoute, c'est génial. Merci à tout le monde d'avoir écouté le live. Merci à ceux qui l'écouteront en rediffusion. N'oubliez pas d'aller sur leguise.com pour l'expatriation au Paraguay ou le Paraguay comme plan B. N'oubliez pas d'aller sur texasjerky.fr.
Jerkytexas.fr. Jerkytexas.fr pour le jeu concours. Le tirage au sort sera à Noël.
Et d'aller aussi sur nos Patreons, tous les liens sont en description. Nous, on n'est pas subventionnés à part la République socialiste, contrairement à tous ces fils de pute de gauchistes qui font la guerre médiatique à vos frais. Merci Baptiste, à la prochaine. Ciao les gars.
À bientôt, ciao.